France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Et toujours bien sûr en édition spéciale, ensemble jusqu'à 20h. Il est des expressions qui sortent de nos livres d'histoire et qui reviennent une après l'autre dans cette crise. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas vu venir la menace russe à ce point, qu'on n'a pas imaginé une attaque sur la totalité de l'Ukraine comme c'est le cas depuis ce matin. 4h, ces mots parlent de rideau de fer. Le président ukrainien a prononcé ces mots. Il parle de guerre froide et aussi de guerre chaude dans une région du monde où l'on pensait que précisément ces expressions n'appartenait qu'à l'histoire. On parle, et c'est le Pentagone qui le dit, d'invasion d'une très grande ampleur, de renverser même un régime pour y placer un homme fantoche. Enfin, nous sommes entrés dans une ère différente. La géopolitique européenne a été bouleversée en une nuit. Ce bouleversement est probablement durable. Alors qu'est-ce qu'on fait en face? Est-ce que nos sanctions sont suffisantes? Et les Américains? Et l'OTAN? Est-ce qu'il faut craindre que Poutine avance plus loin encore dans une provocation ultime? Qu'est-ce qu'on dit de l'entourage de Vladimir Poutine? Le suivra-t-il dans ses rêves de puissance? Où cet homme nous emmène-t-il, emmenant derrière lui l'Europe et le monde? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Merci vraiment d'être aussi nombreux. Le premier, c'est vous, Nicolas. Bonsoir et bonsoir. Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci de prendre les questions. La première, c'est comment est-il possible que nous nous soyons comportés comme une autruche? Avec les exemples comme la Tchétchénie, la Géorgie, la Crimée qui ne manquent pas, nous montrant ce que Poutine considère comme sa mission, à savoir rebâtir l'ancienne Russie et que nous n'avons pas voulu voir. Je pense que la responsabilité de nos dirigeants passés et actuels est immense, incommensurable. Et je voudrais savoir comment on peut encore croire à la diplomatie avec Poutine alors même qu'il donne la preuve qu'il bafoue lui-même ses engagements et sa propre parole. N'est-ce pas encore continuer à ne pas voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que la guerre est là?
Merci beaucoup Nicolas, la guerre est là pour le coup, vraiment la guerre est là. Pour répondre à votre question Nicolas et à toutes celles qui nous attendent jusqu'à 20h, Pierre Aski est resté avec nous. Merci beaucoup Pierre. Dominique Trinquant est avec nous, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Bonsoir Monsieur Trinquant.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. On attend Laure Mandeville, journaliste Figaro, qui sera là dans un tout petit instant, qui est en train de boucler. On peut imaginer que c'est une journée un petit peu difficile, un peu compliquée. Pierre Aski, est-ce qu'on a fait l'autruche, comme le dit Nicolas, sévèrement?
Alors, c'est très sévère, mais c'est pas totalement faux. Je pense qu'on a misé sur une certaine rationalité. Mmh. On n'a pas arrêté de répéter ça. C'est pas dans son intérêt d'envahir l'Ukraine. Il va se mettre au banc de l'Europe, au banc de l'économie mondiale, etc. On a en permanence plaqué notre façon de voir les choses sur Poutine. Et il a montré jusqu'au bout qu'il avait une vision qui lui était personnelle, qui était basée sur son passé à la fois de colonel du KGB, sur ce jugement qu'il avait porté très tôt, qui était de dire l'éclatement de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et je pense que c'est le point de départ de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, plus le rapport à l'Ukraine qui est de l'ordre psychanalytique d'une certaine manière et qui est véritablement quelque chose qui nous échappe, nous, dans nos analyses du comportement de Poutine.
L'Ukraine qui appartient vraiment à la Russie. La plus grande erreur, a-t-il dit, c'était de donner cette Ukraine, l'erreur bolchevique d'ailleurs,
et je crois voilà, que c'est le terme. Il attribue en fait la création de l'Ukraine à la Russie bolchevique et communiste.
Exactement. Il y avait une double question dans celle de Nicolas qui était comment croire après ça à la diplomatie, Pierre Aski. Alors moi j'ai une petite question par-dessus celle de Nicolas d'ailleurs. La diplomatie au sens large, je sais pas, mais à quel moment pourrait-il jamais y avoir à nouveau une forme de diplomatie avec la Russie, quoi qu'il arrive dans les mois qui viennent?
Alors avec la Russie, je pense qu'il faudra à un moment ou à un autre renouer avec la Russie. Évidemment pas tout de suite. Le problème, c'est avec Poutine, parce que plus personne ne peut faire confiance à Poutine. Il a roulé tout le monde dans la farine. J'emploie cette expression délibérément, mais quand même, quand on l'a vu, par exemple, avec Emmanuel Macron, il a accepté de dire que les troupes russe qui était en Biélorussie pour des manœuvres serait retiré après ces manœuvres. Il les a retirés, mais il les a envoyés en Ukraine. C'est de Biélorussie qu'une partie de l'invasion a lieu. Donc, je pense que la confiance a disparu et elle n'est pas prête de revenir.
Et je vous pose la question parce que c'est marrant parce qu'on en parlait vraiment en ces termes ici même hier. On se souvient du nombre de fois où même physiquement on a appuyé sur le bouton reset. C'est comme ça qu'on disait les choses à l'époque d'Hillary Clinton face à Medvedev à l'époque, lorsque Vladimir Poutine malgré tout tirait les ficelles de l'autre côté. On a l'impression qu'on a essayé de repartir à zéro, de faire table rase X fois déjà avec ce dirigeant et ce pays.
Oui, et l'exemple d'Emmanuel Macron est intéressant parce que tout au long de son quinquennat, il a essayé de nouer un rapport avec Vladimir Poutine, a commencé évidemment, on se souvient de cette visite à Versailles, quelques semaines seulement après son entrée à l'Élysée. Il y a eu le fort de Brégançon, il y a eu des tas de visites, et à l'arrivée, il n'y a rien, il n'y a pas le début d'une relation de confiance. Et donc, effectivement, la force de Poutine, c'est qu'il est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Il a vu défiler des présidents américains, des présidents français, des premiers ministres britanniques. Et à chaque fois, il a des interlocuteurs neufs qui se disent « je vais y arriver ».
Et visiblement, chacun échoue pour l'instant. Dominique Trinquant quitte à ne pas croire effectivement ce que dit Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'il peut même aller au-delà de l'Ukraine? Ou est-ce qu'au moins là-dessus, on se dit qu'au-delà de l'Ukraine, on rentre en territoire de l'OTAN et là, c'est vraiment une autre histoire?
C'est naturellement une autre histoire. Mais compte tenu de... j'approuve tout ce qui vient d'être dit. Compte tenu du manque de confiance qu'on peut avoir en lui. Le discours qu'il a prononcé il y a 10 jours maintenant est absolument sidérant, non seulement la réécriture de l'histoire, mais l'enfermement dans lequel il se situe peut faire craindre beaucoup de choses. Après tout, il dit l'Ukraine appartenait à la Russie, on peut dire la même chose des pays baltes, et donc pourquoi pas. Donc je pense qu'effectivement, l'OTAN est une autre paire de manches pour lui. Je ne le vois pas rentrer dans cette confrontation-là. Pas dans le domaine visible, j'allais dire, du hard, des chars, etc. En revanche, dans d'autres domaines, il est possible qu'il le fasse. Donc oui, je crois qu'après le passage à l'acte qu'il vient de faire, il faut craindre le pire.
Est-ce que ça vous étonne, par exemple, Dominique Trinquant, qu'il se soit approché si près, tellement à l'ouest, en fait, si près de la Pologne, au fond, est-ce que ça ressemble à une vraie provocation? Regardez jusqu'où je suis capable de taper. Est-ce que c'est comme ça que vous le lisez?
Non, moi je le lis simplement dans sa capacité à frapper globalement. Mmh. Si vous voulez, quand on lance une offensive aujourd'hui, on met tous les moyens, le paquet complet, et pour atteindre ces objectifs. Et ces objectifs, ils sont situés un peu partout en Ukraine, donc par des missiles, par des attaques de commando, par des hélicoptères, des avions, des bateaux. Il attaque absolument partout, puisqu'il a dit qu'il voulait désarmer l'Ukraine. Donc il faut supprimer tous les systèmes d'armes ukrainiens, dont quelques-uns qui sont à la limite de la Pologne. On n'est pas surpris, parce que vous savez, les missiles, on sait très bien qu'ils peuvent aller très loin, donc c'est pas une surprise. Hein.
Et désarmer, d'ailleurs, avant de retourner au standard, Dominique Trinquant, vu l'asymétrie qu'il y a entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, est-ce qu'on peut dire, pardon de vous le demander comme ça, mais qu'il suffit d'un jour et demi, de 2 jours, pour être à Kiev ou pour avoir effacé la quasi-intégralité de l'armée ukrainienne?
Non, mais je suis d'accord sur l'asymétrie et donc sur l'incapacité probable de l'armée ukrainienne d'arrêter les forces russes. En revanche, j'ai de grands doutes sur le combat dans la durée. C'est-à-dire, si les Russes restent en Ukraine, ils risquent d'avoir de sérieux problèmes.
Ça veut dire quoi, de sérieux problèmes? Ça veut dire une incapacité à rester parce qu'une guérilla autour d'eux, c'est ça que ça veut dire?
Il y aura des éléments qui combattront les Russes, une fois arrivés à Kiev, une fois arrivés dans l'Ouest, qui continueront à les combattre.
Vous y croyez?
Donc, il y a des armes anti-chars, par exemple, qui ont été distribuées, les missiles Javelin qui sont arrivés par les pays baltes, ils seront utilisés et un certain nombre de chars seront détruits. Et du coup, pas mal de body bags, comme on disait chez les Américains, de cercueils rentreront en Russie, et ça risque de poser quelques problèmes à M. Poutine.
Vous y croyez, Pierre, à cette une espèce de chose éclair qui dirait regardez de quoi je suis capable, ce que je sais faire, ce que j'ai fait là.
Je pense qu'il cherche à détruire le plus vite possible toutes les infrastructures militaires ukrainiennes, mais effectivement, je pense qu'il est instruit par le précédent de l'Afghanistan et la résistance au sein de la population russe à ces body bags, à ces victimes de soldats russes rapatriés dans leur famille et qui ont commencé à créer un véritable mouvement anti-guerre. Je pense qu'il n'a pas intérêt, alors là encore on est dans notre propre rationalité, pas forcément la sienne, il n'a pas intérêt effectivement à une occupation longue qui générerait de la résistance.
Notre logiciel à nous dit ne jamais sous-estimer les populations civiles, autant les Russes que les Ukrainiennes, Pierre, mais notre logiciel s'est beaucoup trompé ces derniers trois jours.
Tout à fait.
Dans le même ordre d'esprit, je voudrais qu'on écoute Jean-François. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors d'abord, je voudrais saluer tous les gens qui travaillent à France Inter parce que vous faites un travail journalistique vraiment formidable, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Merci Jean-François, on vous écoute.
Donc aujourd'hui, depuis ce matin, avec les informations qu'on reçoit de l'Ukraine, moi je pense surtout à mes enfants, à mes petits-enfants, et je pense aussi à mes deux grands-pères qui ont fait les deux premières guerres mondiales pour qu'on puisse vivre aujourd'hui libre. Et je pense donc fatalement au général de Gaulle et à Winston Churchill. Donc, j'ai peur pour l'avenir, mais j'ai peur aussi que les dirigeants occidentaux d'aujourd'hui ne deviennent les Neville Chamberlain de demain. Et je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas intervenir militairement, au-delà évidemment des malheurs que cela engendrera à court terme, mais qui, selon moi, pourront sauver l'avenir. Donc là, nous ne sommes pas dans Game of Thrones, nous sommes dans la réalité. Donc pourquoi est-ce qu'on ne veut pas intervenir militairement contre la Russie ? Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup Jean-François. Dominique Trinquant, pourquoi on ne veut pas intervenir en face à face avec la Russie ?
Alors pour deux raisons. D'abord, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'article 5 ne s'applique pas à l'Ukraine. Et donc...
Nous n'avons pas de devoir de venir défendre l'Ukraine.
Voilà. Deuxième point, l'OTAN est une organisation défensive. Elle n'a jamais prévu d'offensive en direction de la Russie. Donc, et aujourd'hui, il faut être très clair, l'OTAN n'est pas prêt à affronter l'armée russe. Elle n'est pas prête d'abord parce que pendant que M. Poutine, pendant les 20 dernières années, a remonté l'armée russe, nous, les Européens, nous avons cru aux dividendes de la paix. Et nous avons démonté notre système militaire. Depuis 5 ans, le budget militaire, pour ne parler que de la France, est en train de remonter. Il s'agit d'une réparation après 20 ans de décroissance. Et après la réparation, il faudra moderniser et reconstruire. Et nous n'en sommes pas là. Et les autres pays européens, à mon avis, sont dans un état encore plus faible que la France. Les seuls qui ont des moyens considérables sont les Américains. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les Américains sont plutôt orientés vers le Pacifique que vers l'Europe. Toutefois, les Américains sont en train d'envoyer aujourd'hui des renforts. Donc si vous voulez, dans le caractère défensif de l'OTAN, je suis confortable. En revanche, aller attaquer la Russie, l'OTAN n'est absolument pas prêt pour le faire.
Pierre Aski, j'ai même envie de reprendre cette phrase que je disais tout à l'heure, ne jamais sous-estimer les sociétés civiles, et là aussi il risque d'y avoir un problème si nous rentrions en guerre concrètement contre la Russie.
Oui, il y a une chose, je pense que dans notre logiciel mental, nous ne sommes pas préparés à une guerre avec une puissance nucléaire, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Toutes les guerres que nous avons faites depuis 20 ans, et l'armée française a été sur de nombreux fronts, que ce soit contre Daesh ou contre les djihadistes au Mali sur d'autres théâtres d'opérations, on était dans des guerres avec des mouvements terroristes ou des mouvements qui menaçaient nos intérêts, on peut le dire comme ça. Mais à aucun moment dans notre histoire, on a imaginé d'entrer en guerre contre un pays qui est nucléarisé. C'est pour ça que ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se décidera sans doute demain au sommet de l'OTAN, c'est le renforcement des défenses de la zone OTAN, donc dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie, autour de la mer Noire, donc de sécuriser cette nouvelle frontière.
J'allais dire, refaire vraiment le rideau de fer.
Ce nouveau rideau de fer. Et les pays qui sont les plus menacés aujourd'hui, c'est pas tant ceux de l'OTAN, à mon avis, c'est ces pays intermédiaires, c'est-à-dire comme l'Ukraine, mais la Moldavie ou la Géorgie, qui sont des pays qui ont connu des évolutions politiques dans le sens d'une démocratisation, la Moldavie en est un très bon exemple, mais qui n'ont aucune protection parce qu'ils sont à l'extérieur de l'Union européenne et de l'OTAN, et ils sont à la merci aujourd'hui de cette vague de bouleversement qui est en train d'opérer Poutine.
Entre parenthèses, mais encore que, d'ailleurs, la Moldavie, drôle de petit pays, effectivement, qui est là coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, avec cette espèce de bande qui est la Transnistrie.
La Transnistrie, absolument.
Et qui est russe, là, pour le coup, enfin, en tout cas, dans...
Il y a un millier de soldats russes, il y a une base russe.
Ce qu'on disait à l'instant résonne avec la question de Patrice sur franceinter.fr, Pierre Avski, qui dit « Vladimir Poutine précise qu'il pourrait atteindre les pays occidentaux dans une mesure jamais égalée ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on le lit, ça ? Au stade où nous en sommes, est-ce qu'on le lit nucléaire ?
Clairement, c'est une allusion à la capacité nucléaire de la Russie. Il a fait cette phrase dans sa déclaration de guerre, donc dans cette déclaration cette nuit, dans laquelle il dit... Il s'adresse visiblement aux Occidentaux et il parle de l'arme nucléaire. Si vous vous mêlez de cette affaire, donc si vous envoyez des troupes en Ukraine pour défendre le gouvernement ukrainien, vous aurez des conséquences que vous n'avez jamais connues dans votre histoire. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu dans notre histoire ? La guerre nucléaire, je pense que c'est la menace la plus glaçante qu'on ait entendue depuis longtemps dans la bouche d'un dirigeant d'un pays... De surcroît, membre permanent du Conseil de sécurité et puissance nucléaire lui-même.
Bonsoir Julien.
Bonsoir.
On vous écoute Julien.
Alors, j'ai entendu toute la journée des intervenants sur vos collègues de France Info qui étaient des spécialistes de ces questions-là et qui évoquaient concernant les sanctions contre la Russie, des sanctions contre Vladimir Poutine en lui-même et les oligarques qui l'entourent. En évoquant des sanctions économiques sur leurs avoirs à l'étranger et leur interdire en gros de partir en vacances en Europe. Ce qui paraît assez hallucinant quand on parle de gens qui partent faire la guerre avec des chars et des avions de chasse, etc. Surtout que apparemment l'offensive est préparée depuis des mois, donc ils ont largement eu le temps de mettre des fonds de côté pour pouvoir encaisser ce genre de sanctions.
Merci. Julien, allez-y.
Ma question, c'est pourquoi est-ce que dans les sanctions, un embargo n'est jamais mentionné ?
Alors, Pierre Esqui, pourquoi jamais d'embargo ? Et dans la sous-question de Julien, j'entends, est-ce que tout ça a un sens ? Est-ce que tout ça est vraiment efficace ? C'est une question qui revient tout le temps.
Alors, paradoxalement, parmi les sanctions les plus efficaces politiquement et psychologiquement, il y a celles qui touchent les oligarques, c'est-à-dire des gens qui ont amassé des fortunes absolument considérables et qui ont acheté des propriétés sur la Côte d'Azur, à Monaco et beaucoup à Londres. C'est un gros débat en Angleterre aujourd'hui de savoir s'il faut mettre fin à ce qui a quand même été une rente pour la capitale britannique. Donc c'est un enjeu majeur. Le problème, c'est qu'on a aussi construit pendant ces 20 dernières années des relations économiques considérables avec la Russie. Et nous nous sommes rendus, certains plus que d'autres, dépendants notamment de ce fameux gaz russe. Il faut savoir qu'un pays comme l'Autriche reçoit 100% de son gaz de Russie. 100%. L'Allemagne, c'est 60%. Nous, en France, on est mieux dotés, sans doute géographiquement, on est à peine à moins de 20%. Ça crée des situations de dépendance qui font que c'est très difficile aujourd'hui, pour un pays comme l'Autriche, par exemple, de dire je fais un embargo total, parce que vous vous fragilisez, vous vous mettez en danger. Et là, on peut reprocher effectivement à nos dirigeants le manque d'anticipation, parce que cette Europe de l'énergie dont on parle depuis des années, c'est un des serpents de mer de l'Europe, n'a jamais vu le jour parce qu'on a des intérêts divergents, parce que la France a misé sur le nucléaire, parce que l'Allemagne a renoncé au nucléaire, etc., etc.
Voilà, et alors probablement que par la suite, là aussi, il y a un certain nombre de choses qui vont changer après cet épisode-là. On verra bien avant comment se termine cet épisode-là. Dominique Trinquant, on se dit malgré tout, et même si aux yeux de certains de nos auditeurs, ça peut paraître finalement assez dérisoire, mais le seul moyen d'arrêter l'avancée de Vladimir Poutine, est-ce que c'est celui-là, en fait? C'est l'arrêt par les sanctions, parce qu'il va y avoir effectivement un certain nombre d'armes qui vont être données aux Ukrainiens, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en première heure, y a-t-il vraiment, est-ce que vraiment ça pourra aider les Ukrainiens, si ce n'est retarder un peu les Russes, mais pas plus que ça?
Ben, les retarder, si vous voulez, c'est un peu tard. Hein. L'armement a été fourni avant, celui qui a été fourni avant va être utilisé, on parle en particulier de missiles antiaériens et de missiles Javelin. Mais ce qui sera envoyé dans le futur, c'est, si j'ose dire, quelque chose qui rentrera en ligne de compte si les Russes restent en place. C'est ça. Aujourd'hui, il est un peu tard pour envoyer de l'armement. Si vous voulez, c'est une guerre éclair. Hein. Mm-hmm. Pour moi, je vois les affaires réglées en une semaine, hein, mm-hmm. à peu près. Donc voilà, malheureusement, l'Ukraine est en mauvaise position et nous ne sommes pas en bonne position pour l'aider militairement, j'entends. Le seul point sur lequel on peut l'aider, c'est peut-être par des systèmes électroniques de brouillage ou par du renseignement qu'on peut leur fournir.
Merci beaucoup. Vous restez évidemment avec nous. Je voudrais saluer Alexandra Goujon qui vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup vraiment d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de ce pays, la Russie. Il y a une question qui est juste pour vous et qui vient de nous arriver sur franceinter.fr et qui dit ceci. Le scénario d'un renversement interne par la force en Russie de Poutine est-il possible? L'exécutif et les militaires russes sont-ils à ce point partie prenante de la stratégie géopolitique de Vladimir Poutine?
Alors ça, moi je sais pas côté russe, moi je suis spécialiste de l'Ukraine, donc ce que je sais, c'est que j'ai compris ce matin en écoutant l'ambassadeur russe à l'ONU et bien sûr le discours de Poutine que l'idée c'était de changer le pouvoir. Ce que je ne vois pas, c'est qui va pouvoir occuper ce pouvoir aujourd'hui, avoir une position pro-russe. Me paraît extrêmement difficile en Ukraine. Je vois même les fameuses forces politiques au Parlement européen qu'on qualifie de pro-russe, c'est-à-dire, entendons-nous bien, pro-russe, il ne s'agit pas de se soumettre au pouvoir russe, il s'agit d'avoir des relations commerciales ou, on va dire, autres, cordiales avec la Russie. Mais là, tout est transformé, en fait. Donc, ça va être extrêmement difficile et j'attends de voir, malheureusement, je préférerais ne pas le voir, mais quelle sera la stratégie russe politique après la stratégie militaire. Et bon, pour l'instant, on n'en est pas là, bien évidemment, mais j'ai écouté votre expert militaire et je suis bien évidemment pessimiste.
La stratégie, Pierre Aski, de poser, effectivement, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça paraît tellement surréaliste aujourd'hui, en 2022, et tellement 20e siècle, en fait, de se dire qu'on prend quelqu'un, qu'on le pose à la place du président ukrainien aujourd'hui et qu'on fera instantanément de cette Ukraine un satellite de la Russie.
Oui, c'est totalement impensable rationnellement, ouais. Toujours ce mot. Et c'est vrai que ce qui a été fait dans les républiques séparatistes ou ce qui a été fait ailleurs en Ossétie du Sud, etc., c'est-à-dire faire émerger des hommes liges qui servent les intérêts du Kremlin, on l'imagine mal à l'échelle d'un pays tout entier comme l'Ukraine, dont la population ne voudra pas de cet homme, de ce régime, même avec une répression. Je faisais tout à l'heure la comparaison avec la Biélorussie. On a bien vu que Loukachenko, perdant les élections, a quand même réussi à reprendre le dessus alors que la population était dans la rue. Donc la répression est évidemment voilà, et la Russie aussi a connu des périodes de contestation réprimées dans lesquelles Poutine a repris le dessus. Donc ça paraît difficilement envisageable, et pourtant ça sera tenté.
Ouais. Et là-dessus, Alexandra Goujon, est-ce qu'on se dit que précisément Vladimir Poutine a une mauvaise lecture de la société ukrainienne, qui dans son histoire récente, on parlait tout à l'heure de à la fois 2004, à la fois 2014, a montré ses velléités de se tourner vers l'autre côté, de se tourner vers l'ouest. Est-ce que Vladimir Poutine, encore une fois, a une très mauvaise lecture d'une société qui se retournera forcément contre une forme d'occupation, contre un dirigeant fantoche qu'on lui mettrait à sa tête?
Ben oui, je me pose effectivement la même question, c'est-à-dire est-ce que vraiment il croit en ce discours, hein, souvenons-nous du discours de lundi, de colonie américaine, hein, c'est-à-dire comme si Zelensky, on lui avait bourré le crâne de l'extérieur, il ne comprend pas. Zelensky fait justement partie de ces gens qui sont originaires de l'Est, russophones, qui a tenté un dialogue avec Poutine, il a même été accusé en Ukraine de tenter ce dialogue et qui s'est rangé quand il a vu que Poutine ne ferait aucune concession dans le Donbass, qui s'est rangé à cette cause patriotique. Et donc, effectivement, c'est comme si, effectivement, il y avait une mauvaise lecture, une croyance qui remonte, effectivement, peut-être à la période soviétique, peut-être aussi à la période impériale. On sent chez Poutine quand même cette idée que comment sait-il que les Ukrainiens ne veulent pas se soumettre? Et puis il y a ce discours de fraternité des peuples, mais qui est brisé. Aujourd'hui, on a des familles qui sont coupées justement en raison de ce discours de propagande. À Kiev, on vous dit souvent, j'ai un peu de famille en Russie, je ne leur parle plus. Donc bien évidemment, il y a une frange de la population qui est sensible aux médias russes, il ne faut pas l'ignorer. Mais tous ces citoyens, et notamment je pense aux jeunes qui ont vécu dans un pays, ils sont citoyens ukrainiens, ils n'ont pas connu la période soviétique, cette idée de, non seulement si vous voulez, d'être soumis à un pays extérieur, hein, c'est quand même ça l'idée, plus un pays qui est un régime autoritaire, autocratique, qui enferme, voilà, l'Ukraine ne vit pas comme cela depuis 30 ans, il y a eu des révolutions, une liberté d'expression, un journalisme d'investigation, donc effectivement, ça paraît, c'est deux univers, deux imaginaires nationaux totalement distincts.
Pierre, la raison de la question de cet auditeur tout à l'heure sur « mais est-ce que quelqu'un va se retourner contre Vladimir Poutine ?» c'est aussi que nous avons en tête, et là encore, c'est notre logiciel qui parle, mais les images terribles d'il y a deux jours avec le chef de la sécurité intérieure qui est totalement humilié par Vladimir Poutine, qui bredouille, qui ne sait même pas quoi dire, oui, dont on sent bien que tout ça respire la peur. Donc on se dit, c'est pas possible, gens-là ne vont pas le suivre ad vitam.
Oui, mais ce que cette scène montrait, c'est donc la réunion du Conseil de sécurité, russe, dans laquelle il a demandé à chacun des membres de se prononcer sur la reconnaissance des républiques séparatistes, et le chef des services de renseignement a bredouillé, s'est fait humilier en direct à la télévision. Enfin, c'était une scène abominable, mais ce que ça montrait, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans ce pays, et que personne n'est capable, et certainement pas ce chef des services de renseignement, de dire à Poutine, peut-être que c'est une mauvaise idée d'attaquer l'Ukraine, peut-être que c'est pas la bonne piste. Ça n'existe pas, et je ne crois pas qu'aujourd'hui, sauf à imaginer un complot parallèle, etc., l'autorité de Poutine est telle, sans contre-pouvoir, et elle est centralisée autour de sa personne, qu'on voit mal la contestation possible à ce stade, sauf désastre. En Ukraine, sauf que pour le moment, le rapport de force est en sa faveur.
Sauf désert, sauf body bag, comme le disait tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
Dominique Lincoln.
C'est qu'à un moment, effectivement, il y a une montée d'impopularité ou que les conséquences économiques soient trop catastrophiques. Mais en tout cas, pas à ce stade.
C'est comme ça qu'a tourné la guerre en 2003, la guerre en Irak entre les Américains et l'Irak. C'est quand les Américains ont vu revenir les cadavres, en fait, des boys, et ont réalisé que ça n'était pas une guerre qui se faisait sans morts, parce que ça n'existe pas. En fait, il y a forcément des morts dans une guerre. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce qu'on est encore une fois là en train de rêver dans notre propre logiciel?
Je crois que là, on est parti sur une guerre relativement courte. Le général Trinquant parlait tout à l'heure d'une semaine. Ça paraît assez réaliste, effectivement, vu le rapport de force entre l'Ukraine et la Russie, entre les deux armées. reste à savoir ce qui se passera après. Sur cette première phase, il n'y aura pas de contestation majeure en Russie. On a vu aujourd'hui quelques manifestations très isolées de gens qui se faisaient arrêter tout de suite. En revanche, si l'armée russe se transforme en armée d'occupation et donc génère cette résistance que nous évoquons depuis le début, là, je pense qu'on rentre dans une autre équation.
Bonsoir Adeline.
Bon, merci de prendre ma question.
Je vous écoute.
Alors, j'imagine que Vladimir Poutine a lancé cette opération en ayant à l'esprit d'avoir l'appui de son peuple, même si il se fiche des manifestations et il les réprime. Mais j'imagine qu'il espère avoir l'appui du peuple en général. Et du coup, je ne comprends pas l'argument de dénazification qui semble apparaître pour nous occidentaux, comme ça, venu de nulle part, enfin, sorti de d'on ne sait où. Et je me demandais justement, dans ce contexte, si les médias russes avaient déjà préparé les esprits russes à cette notion de dénazification. Est-ce qu'elle a une réalité dans la conscience populaire russe? Et voilà, c'est vrai que je suis très surprise par ce terme de dénazification qui semble tout nouveau pour moi.
Merci beaucoup Adeline Pieraski.
Oui, c'est vrai que vu de France, ça paraît surréaliste. Ça l'est beaucoup moins là-bas, parce que Vladimir Poutine fait appel à un imaginaire historique qui est très précis, qui est la grande guerre patriotique contre le nazisme, contre l'Allemagne, Stalingrad, etc. Et donc, en transformant l'image de l'Ukraine comme un résidu de nostalgique du nazisme, on rend évidemment l'Ukraine encore plus impopulaire dans la population russe, et on légitime cette opération. Il y a quand même un contrôle des médias. Il y a encore quelques poches indépendantes en Russie, mais globalement, ces dernières années, il y a eu un tour de vis sur la liberté de la presse, sur la liberté d'association en Russie, qui fait qu'aujourd'hui, la narration, comme on dit, faite par Poutine et son fameux discours historique, est le discours dominant qu'entendent les citoyens russes aujourd'hui. Et donc, ce mot de dénazification qui nous semble étrange, il fait appel à quelque chose de très précis dans l'inconscient collectif russe.
Et comment on l'entend d'ailleurs ça, Alexandra Goujon, chez les Ukrainiens? Comment ils le prennent eux? Comment ils le vivent eux? Qu'on les ramène à cette chose-là, en fait?
Eh bien, justement, j'allais répondre à votre auditrice. Ce n'est pas un discours récent, en fait. Et la révolution de Maïdan en 2014 a été présentée par la Russie comme un coup d'État fasciste. Pour eux, c'est une junte fasciste qui est arrivée au pouvoir. Et l'idée, c'est d'inverser totalement les responsabilités et de montrer non seulement à sa propre opinion, mais aussi à l'opinion occidentale. N'oublions pas, puisque là, bien évidemment, on se dit « Ah bon, tout de suite, l'extrême droite et tous les médias, toute la désinformation, notamment qui existe en Europe, vise à montrer que l'Ukraine est dangereuse parce que ce sont des nationalistes au pouvoir. » Comme je l'expliquais, Zelensky est loin d'être un nationaliste. Il y a des groupes d'extrême droite, comme il y en a d'ailleurs partout en Europe, mais Vladimir Poutine essaye absolument de raviver tout cela, justement pour justifier son attaque. Parce que qu'est-ce qui justifie le fait d'envahir quand même l'Ukraine? Il faut trouver des mots qui choquent et essayer de ramener l'opinion publique à soi. Donc on parle de dénazification, on parle de génocide, alors même qu'il n'y a violence qui soit basée sur l'appartenance ethnique, sur l'appartenance religieuse en Ukraine. Donc les mots choquent pour en quelque sorte se dédouaner d'une quelconque responsabilité.
Général Trinquant, voici une vaste question, mais elle est pour vous, c'est celle de Anne ou Annie, je ne sais pas, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Annie, on vous écoute.
Oui, je me posais la question et je déplorais vraiment qu'il ne se soit pas créé de force de défense européenne qui permette de mettre en place des soldats qui défendraient la frontière, parce qu'on connaît les risques encourus par toutes ces populations là frontalières de la Russie. Donc c'est bien qu'il y ait l'OTAN, mais l'OTAN n'est que défensif, comme on l'a dit, et donc l'Europe devrait elle aussi pouvoir agir aussi.
Merci Annie pour votre question. Dominique Trinquant, vaste problème et même serpent de mer, j'allais dire, mais peut-être que cette crise, encore une fois, fera partie des nombreuses crises qui font accélérer cette fameuse défense européenne. Vous y croyez-vous ou pas ?
Alors, premier point, j'entendais dans la question défendre la frontière. Mm-hmm. Mais l'Ukraine, je suis navré, est de l'autre côté de la frontière. Mm-hmm. Elle n'appartient ni à l'Union européenne, ni à l'OTAN. Donc, la frontière est à l'ouest de l'Ukraine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la défense européenne, vaste serpent de mer, elle existe pour l'instant au sein de l'OTAN. Je rappelle que l'OTAN, ce sont les pays européens plus les États-Unis et le Canada. Et donc, au sein de l'OTAN, il y a cette défense européenne. Maintenant, l'autonomie de la défense européenne, c'est le sujet sur lequel on travaille actuellement et sur lequel, vous savez, au mois de mars, une boussole stratégique devait être présentée. Je pense qu'il va y avoir pas mal de chamboulements là-dedans parce que, très sérieusement, pour faire face à la puissance militaire russe, je pense que la défense européenne n'est pas suffisante. Et tout le monde reconnaît que lorsqu'on parle de défense européenne, c'est plus pour intervenir au Sahel, comme c'était le cas avec la force Takuba, ou pour d'autres actions, mais que pour la défense de l'Europe, face à la Russie, nous avons besoin de l'alliance avec les États-Unis et donc au sein de l'OTAN.
Alexandra Goujon, il nous reste une petite minute pour la dernière question. Pierre Aski aussi, c'est cette question de Gérard sur franceinter.fr qui se demande pourquoi toutes les nations européennes n'ont pas rappelé immédiatement leur ambassadeur. On sait que l'ambassadeur européen, je crois, a été rappelé pour discussion, mais pas chacun des 27 ambassadeurs, Pierre, si je ne me trompe.
Non, absolument, ouais. Oui, tout à fait.
Alexandra Goujon, la question que je me pose moi, c'est est-ce que vous avez le sentiment que en Ukraine, on pense que l'Europe, y compris sur ce genre de symbole, en fait suffisamment pour l'Ukraine en ce moment? Est-ce qu'il y a un sentiment, en revanche, d'être un peu seul, y compris malgré les signaux qu'envoient les Européens?
Je pense qu'il y a ce sentiment d'être un peu seul. Ils savent qu'ils sont soutenus, mais sans doute à suffisamment. Il y a un appel à l'aide. Mais voilà, le problème de non coalition militaire qui a sans doute dû être évoqué, bien sûr, c'est une déception. Mais là, je pense qu'ils sont en train de gérer tellement de problèmes. Je pense surtout à tous ceux que je connais en Ukraine et qui, je pense, ne voulaient pas non plus croire à cette invasion qui. Voilà, qui est terrifiant.
Pierre Aski, juste là-dessus, en une petite seconde, puisqu'on on a vraiment déjà fini, pourquoi les ambassadeurs ne sont pas déjà revenus, en effet, et les 27 d'un coup, quelque chose qui serait symbolique comme ça, ou ça n'a pas de sens?
Je pense que on est dans le domaine du symbolique pur, et que ça ne change rien.
Voilà, ben, merci pour cette réponse.
Courte.
Mais courte et efficace. Merci vraiment, merci à tous d'avoir participé à cette spéciale. Merci pour vos très très nombreuses questions. Je voudrais ajouter que c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui est l'invité demain de Léa Salahé et de Nicolas Demorand, à partir de 8h20.